France Culture. L'esprit d'ouverture.
Salutations au soleil, ouverture des chakras. Cette semaine, LSD se met au yoga.
Sur France Culture, déroulez votre tapis avec Perrine Kervran.
Stage intensif d'une semaine, Bikram ou Kundalini. D'où vient le yoga? Pourquoi a-t-il envahi Instagram? Et comment peut-il s'appliquer à la vie? Alors namasté et surtout, on respire par le nez.
La série documentaire, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Deux concerts exceptionnels de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec la violoniste Patricia Kopaczynskaia. Les 22 et 30 octobre à l'Auditorium de Radio France. Laissez-vous emporter par la virtuosité des deux grands concertos pour violon de Béla Bartók et de deux grandes pages pour orchestre, la Symphonie de Franck et la Symphonie Fantastique de Berlioz, sous la direction de Mikko Franck. Réservation, maisondelaradio.fr. Entrée au cœur du concert.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. 7 personnes dont 2 mineurs ont été déférées cette nuit dans l'enquête sur l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Ces suspects seront présentés dans la journée à un juge antiterroriste en vue d'une éventuelle ouverture d'une information judiciaire. Il y a notamment 2 collégiens suspectés d'avoir reçu de l'argent de la part du terroriste contre des informations sur le professeur à Conflans-Sainte-Honorine. Il y a aussi Abdelhakim Sifraoui, un militant islamiste qui avait réclamé des sanctions contre Samuel Paty pour son cours sur les caricatures de Mahomet. Cet homme est le fondateur du collectif Sheikh Yassine, collectif pro-palestinien qui va être dissous dans la matinée tout à l'heure en Conseil des ministres. Emmanuel Macron en personne l'a annoncé hier. Le président qui prépare aussi l'hommage national à l'enseignant, ce sera ce soir à 19h30 à Paris dans la cour de la Sorbonne. J'ajoute que les gardes à vue des 9 autres personnes ont en revanche été levées hier soir sans qu'elles fassent l'objet de poursuites pour le moment. En Conseil des ministres aussi ce matin, la présentation du projet de loi pour prolonger l'état d'urgence sanitaire face au nouveau coronavirus. Alors que les soignants des services de réanimation dans les hôpitaux voient toujours arriver des malades du Covid-19, de plus en plus d'ailleurs, avec des complications. Ils sont près de 2200 ce matin en réanimation. La police qui tire sur des manifestants, cela s'est passé hier au Nigeria, à Lagos. Il y aurait, selon Amnesty International, plusieurs morts et de nombreux blessés. Plus d'un million de personnes s'étaient rassemblées hier sur un péage au soir de l'entrée en vigueur d'un couvre-feu total. Un millier de personnes donc. Les dirigeants locaux veulent éteindre cette contestation contre les violences policières et le pouvoir. Nous irons sur place au Nigeria dans le journal de 6h30. Et puis, dans une demi-heure également, direction Cuba qui rouvre ses frontières. Après plus de 7 mois de fermeture, l'île des Caraïbes peut de nouveau accueillir des touristes. C'est le 2e secteur économique du pays. Vous l'entendrez tout à l'heure.
On disait de Matisse que c'était un bourgeois et que sa peinture jugée décorative n'était pas en mesure de nous remuer les tripes.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Eh bien, 150 ans après sa naissance et alors qu'une exposition le célèbre au Centre Pompidou à Paris, on se rend compte qu'il était bien au contraire un peintre de l'avant-garde qui cherchait, et comment s'en plaindre, à alléger par l'harmonie de sa vision la vie de ses contemporains.
La Compagnie des œuvres, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur l'application Radio France.
Salutations au soleil, ouverture des chakras. Cette semaine, LSD se met au yoga.
Sur France Culture, déroulez votre tapis avec Perrine Kervran.
Stage intensif d'une semaine, Bikram ou Kundalini. D'où vient le yoga? Pourquoi a-t-il envahi Instagram? Et comment peut-il s'appliquer à la vie? Alors namasté et surtout, on respire par le nez.
La série documentaire, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture, c'est l'heure du monde vivant de Bruno David qui est consacré ce matin au vermisseau.
Charles Darwin, l'un des plus grands scientifiques de son époque, était curieux de tout, y compris d'espèces très modestes. Cette curiosité le poussa à porter son regard sur les vers de terre et il publia en 1881 un ouvrage intitulé la formation de la terre végétale par l'action des vers de terre, avec des observations sur leurs habitudes. Ce sera son dernier livre. Le lombric, ou vers de terre commun, Lumbricus terrestris, est un annélide de 9 à 30 cm de long et de près d'un centimètre de large. Son corps cylindrique et annelé compte entre 100 à 180 segments. L'espèce est hermaphrodite. Chaque individu présente à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Prolifique, il donne naissance à près de 400 petits par an. Sa biomasse atteint 1 à 3 tonnes par hectare dans les prairies tempérées et jusqu'à 50 dans un pâturage. Aujourd'hui, on connaît les services écosystémiques rendus par les vers de terre. Ils recyclent la matière organique en décomposition car leur tube digestif est capable de dégrader la lignine et la cellulose des plantes. Ce faisant, ils restituent pour d'autres espèces des composés organiques simples et digestes. Les excréments qu'ils rejettent en petits tortillons, les terricules, témoignent de leur activité de brassage du sol. Dans les zones tempérées, les terricules représentent en moyenne 300 tonnes par hectare. Darwin lui-même évoque le labour lombricien. La charrue est une des plus anciennes et des plus utiles inventions de l'homme. Mais bien avant qu'elle existe, la terre était en fait régulièrement labourée et continue toujours de l'être par les vers de terre. Ce phénomène, mesuré précisément par Charles Darwin, explique pourquoi les objets posés au sol finissent par s'y enfoncer. Redonnons-lui la parole. Les archéologues ne savent pas dans quelle mesure ils devraient être reconnaissants aux vers pour la préservation de beaucoup d'objets antiques. Les ennemis du ver de terre sont la taupe, la musaraigne, le blaireau, le renard, la couleuvre, plusieurs espèces d'oiseaux et d'amphibiens, et puis les pesticides. Mais plus récemment, de nouveaux ennemis sont arrivés. Des vers plats, invasifs, originaires de Nouvelle-Zélande, qui se nourrissent presque exclusivement de vers de terre. Arrivés avec des plantes importées, ils se sont largement répandus en Angleterre, et en France, plus de 60 départements sont touchés. Le Muséum national d'histoire naturelle a lancé un dispositif de science participative pour que les citoyens qui trouvent ces vers plats dans leur jardin puissent le signaler. Ce réseau de surveillance a découvert en 2013 un nouvel envahisseur, dont le nom de genre est Obama. On savait les taxinomistes facétieux, mais ce nom n'a pas de rapport avec l'ex-président américain. Il est en effet formé de deux mots de la langue Tupinamba, Oba, feuille, et Ma, animal, car le corps de l'animal est plat comme une feuille. Mais comme ce nom de genre a été forgé en 2013, à l'époque où Barack gouvernait les États-Unis, je soupçonne les taxinomistes d'être un peu hypocrites en plus d'être facétieux.
Allez, on s'élève, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma et aujourd'hui mon invité est le documentariste Daniel Kupferstein. Son dernier film Pas en mon nom sort dans quelques salles d'art et d'essai et pose cette question délicate. Peut-on être français, juif et s'opposer à la politique d'Israël sans être considéré comme un traître par ses coreligionnaires? Le film donc donne la parole à des personnalités connues ou moins connues qui racontent leurs expériences individuelles au rythme des conflits au Proche-Orient. Et puis en deuxième partie, Michel Simon du magazine Positif viendra nous parler des autres films qu'il faut voir cette semaine. D'abord, le City Hall de Frédéric Weismann, le Adieu les cons d'Albert Dupontel et nous dira aussi deux mots sur son cinéaste fétiche, Kontchalovski. Voilà, c'est le réveil culturel. On est mercredi, c'est cinéma.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Souvent, lorsque les conflits violents reprennent au Proche-Orient, les Juifs de France sont appelés à soutenir inconditionnellement l'État d'Israël. Pourtant, un certain nombre d'entre eux, comme moi, refusent cette assignation identitaire. C'est pourquoi je suis allé à leur rencontre.
De mon judaïsme, qu'est-ce qui reste? J'ai rien à rejeter. Il me reste des souvenirs. Il me reste les persécutions. la cuisine et la musique, mais pas d'attachement à un pays.
Quand on est juif et qu'on arrive en Israël, on est tout de suite d'un côté, on est tout de suite dans un camp, on voit qu'une seule facette des choses, et c'est très 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 difficile de passer de l'autre côté. Il faut rencontrer les gens au quotidien pour comprendre ce que ça leur fait à leur vie, de rien pouvoir faire, de rien avoir le droit de faire, de demander l'autorisation pour tout.
Israël doit son existence à une décision de l'ONU. L'ONU a fait une autre résolution disant qu'il faut qu'il quitte complètement les territoires occupés. Depuis 1967, Israël remet en cause la structure à laquelle il doit sa légitimité. C'est ça qui est absolument indéfendable.
Mon soutien de la cause palestinienne a fait de moi un traître. Et pour moi, c'est très difficile à vivre. Moi, j'ai consacré ma vie à écrire des livres, une trentaine de livres sur l'histoire des Juifs. Et aujourd'hui, dans la rue, les gens m'insultent. Les Juifs m'insultent.
Voilà, Esther Benbassar, qu'on a reconnue, c'est un des personnages qui sont dans votre film, Daniel Kupferstein. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Alors, votre film, pas en mon nom, déjà le titre nous donne une indication sur ce que vous voulez démontrer à travers ces rencontres avec des Juifs français, qu'ils soient d'ailleurs séfarades ou ashkénazes. Chacun vient raconter son histoire et chacun vient vous parler de son expérience en France à chaque fois que le conflit israélo-arabe, pour ne pas dire israélo-palestinien, revient au devant de l'actualité.
Tout à fait. Oui, j'ai essayé d'aller les voir un petit peu par ma propre expérience, c'est-à-dire que...
Pour être sûr que vous n'êtes pas seul.
Oui, voilà, pour ne pas être seul, pour me sentir complètement seul. Et puis, surtout parce que j'ai l'impression que on glisse un petit peu en France, en tous les cas, mais probablement un peu partout dans le monde, on glisse sur ce qu'on a appelé une essentialisation des questions ou une espèce de déterminisme, comme quoi en fonction de notre appartenance ou notre histoire ou d'où on vient, on devrait penser de telle ou telle manière, voilà. Et donc de ce point de vue-là, je me suis dit
ça marche dans tous les sens, hein, c'est-à-dire que quand on est d'origine maghrébine ou arabe, on se sent concerné par le conflit israélo-palestinien en prenant vraiment le parti des Palestiniens, et pour les Français juifs, vous dites dans votre film, Daniel Kupferstein, qu'on n'a pas le droit de critiquer l'État d'Israël, de moins en moins le droit de critiquer l'État d'Israël sans être accusé de traîtrise.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu... à travers les institutions juives en France, une radicalisation vers la droite, voire l'extrême droite, si on peut appeler ça comme ça. En tous les cas, où la parole, où la diversité de la parole par rapport à des questions sur Israël-Palestine, cette diversité, elle a été oubliée au profit d'une défense absolue. Quoi que fasse Israël,
quel que soit le gouvernement,
il faut les défendre, etc. Et en fait, c'était le point de départ de ce film, c'est-à-dire que là, en 2009, il y a eu des bombardements sur Gaza. Et j'ai vu un appel du CRIF qui demandait à soutenir Israël, c'est-à-dire en plein bombardement des avions israéliens contre des personnes à Gaza, et au nom de la défense d'Israël, et quelque part au nom de la défense de tous les Juifs. Et c'est de ce point de vue-là que ça a commencé à me titiller sérieusement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette prise de position que je ne trouvais insupportable, parce que je trouve que c'est insupportable de bombarder n'importe quel peuple, surtout un peuple qui peut pas trop sortir de son territoire, puisque Gaza s'est enfermé, mais... Ensuite, c'était de dire prendre une position comme n'importe quel individu, mais on m'a dit « Oui, mais toi, Daniel, t'es un juif pas pareil. Comment pas pareil ?» Comme si tous les juifs devaient penser soutenir automatiquement Israël et ne pas avoir sa propre idée, ses propres conceptions, sa propre conception de la vie, tout simplement. Et ça recouvre la question du... Je crois qu'il y a un... À travers pas mal de gens, en France en tous les cas, il y a un glissement entre juifs et israéliens. C'est-à-dire comme si c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que tout juif, pour des gens comme le CRIF, doit défendre Israël. Et puis du coup, pour plein de gens autour, tout acte israélien, les juifs sont concernés et la et l'applaudissent et le soutiennent. Et c'est ça que je veux essayer, de, à travers ce film, d'interroger les gens pour essayer de comprendre que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le droit d'avoir son point de vue, il doit être, il est universel. Enfin voilà, chacun, d'où on vient, on a droit d'avoir son point de vue.
Et vous avez privilégié donc des gens qui, comme vous, Daniel Kupferstein, ont une analyse politique du conflit entre Israël et Palestine qui dépasse leur appartenance, leur assignation. D'ailleurs, vous le dites souvent dans le film, puisqu'on vous voit apparaître dans le film.
Oui.
Le film, ce documentaire, c'est aussi vos dialogues avec ces personnalités que vous êtes allé chercher.
Oui.
Pour vous sentir moins seul.
Oui, probablement. Mais je pense que depuis, je me suis aperçu qu'on était très nombreux. Peut-être pas majoritaire, mais en tous les cas, on était très nombreux à le penser, parce que j'ai reçu, évidemment, d'un côté, des gens, on pense que je suis un traître, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, lors de débats, parce que le film a déjà été vu dans quelques associations, etc., il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est exactement ce que je pense depuis tout le temps, etc. C'est-à-dire que cette idée pas en mon nom, finalement, qu'Israël doit pas parler au nom de tous les juifs, etc. Finalement, il y a plein de juifs qui se sentent exactement dans cette même position. Donc, je suis pas seul. Et puis, les gens que j'ai vus, ils ont conforté ce point de vue. Mais je voudrais dire que le film est construit en trois parties. C'est-à-dire une première partie qui, d'où on parle, d'où on vient. Et donc, c'est là où on voit les différences d'origine, Ashkenaz, Séfarad, Égyptien,
Turc.
On vient de différents endroits.
Et avec différentes cultures.
Et des fois, il y a des problèmes entre les différentes cultures, n'est-ce pas? Et une deuxième partie qui est le lien ou pas avec l'État d'Israël, pour savoir un petit peu, parce que une partie a été en Israël, certains ont vécu comme Karen Akoka une dizaine d'années, d'autres ont vécu complètement dans ce pays.
Et vous-même d'ailleurs,
moi j'ai été qu'une seule fois, j'ai été une seule fois pendant 2 mois, et de cette expérience, j'en ai tiré une chose, c'est que j'y remettrai les pieds que quand il y aura deux États, ou un État suivant un État démocratique où tout le monde pourra s'y installer, en tous les cas dans une paix. Voilà, j'ai promis ça, et c'est il y a très longtemps, et malheureusement, j'y suis pas retourné.
Et puis enfin, la troisième partie de votre film.
Et la troisième partie, donc ça c'est la deuxième, parce que ce qui est intéressant aussi dans cette deuxième partie, c'est petit à petit la prise de conscience, c'est-à-dire que petit à petit les gens, ils disent non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et on dit non. Et la troisième partie, c'est une fois qu'on a dit non, qu'est-ce qu'on en fait vis-à-vis des représentants officiels de la communauté juive qui sont à fond derrière Israël, quoi que Israël fasse. Et puis de l'autre côté, de la part de quelques, on va appeler ça des pro-palestiniens, etc., qui confondent eux aussi de l'autre côté juifs et israéliens, et qui, en gros, comme dit Maurice Rachfuss, là, qui est regretté, qui était dans un meeting de soutien à la Palestine, et puis à la fin, il y a un mec qui vient lui dire « Oui, mais quand même, vu ton origine, tu es quand même responsable de ce qui se passe. » Comme si Maurice Rachfuss était responsable de quoi que ce soit par rapport à la dérive militaire et réactionnaire et coloniale de l'État israélien. Quoi.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Vous avez fait ce casting, parce qu'il y aura, vous interrogez Bernard Bloch, on retrouve Ronnie Broman, d'autres personnes qu'on connaît pas, comme Emeline Fagot. Vous avez fait un casting en disant je vais donner la parole aussi bien aux intellectuels qu'à ceux qui ne le sont pas, pour voir comment eux ils vivent ce conflit et cette contradiction, c'est-à-dire être pour la paix au Proche-Orient ou du moins pour une solution juste dans ce conflit israélo-palestinien, mais tout en assumant le fait qu'ils aient cette culture juive et surtout et qui sont tout d'abord français.
En fait, je voulais avoir une diversité à la fois d'origine, donc c'est gagné, puisque quand on voit les huit personnages, ils ont toutes des origines différentes.
Oui, ça vient de Pologne, on doit parler des origines, hein. Oui. La Pologne, l'Europe,
l'Allemagne,
l'Égypte, l'Alsace,
l'Algérie,
le Maroc. Ouais.
Donc il y a un petit peu de tout. Ensuite, je voulais une diversité d'âge.
C'est vrai.
Voilà. Et je voulais, et du coup, une diversité aussi de sexe, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes. Voilà, j'avais envie de faire cette diversité dès le départ. Maintenant, après, le nombre, c'est-à-dire j'ai filmé 13 personnes en tout, donc il y a des personnes qui sont pas là. Et après, c'est l'histoire du montage qui a éliminé quelques personnes sur la route. On aurait pu s'arrêter à 3-4 personnes, voilà, mais ça se tenait plutôt bien avec ces huit personnages, plus moi, le neuvième, on va dire.
Parce que vous êtes présent.
Oui, je suis présent.
Qui vous filme quand vous êtes avec ces personnages? Est-ce que vous avez une équipe? Parce qu'on a l'impression que ce documentaire, vous l'avez fait avec très peu de moyens, comme d'habitude, Daniel Kupfer-Chalin.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors celui-là, il a été fait avec vraiment peu de financement, puisqu'il n'y a pas grande production qui ont voulu le produire, en disant ce film ne passera jamais sur une chaîne de télévision. Donc voilà, ça va être compliqué, etc. Donc j'en ai eu marre d'attendre et je me suis dit, bah, je vais le faire quand même parce que j'y crois. Et alors j'ai fait un financement participatif. Donc à la fin du film, il y a les 300 personnes qui ont donné de l'argent pour contribuer à ce film. J'ai eu une aide de la SCAM aussi sur ce film. Donc voilà, et j'ai réussi à boucler en fait ce film avec très peu de moyens. Donc comment ça s'est passé au niveau du tournage? Eh ben, il y avait un chef opérateur, Christophe, enfin il y en a eu, ça, il y a eu un autre à un moment, mais en fait, on avait une caméra, la mienne, qu'on mettait sur pied d'un côté, et lui, il filmait de l'autre côté. Et voilà, et donc c'est comme ça, on avait donc deux caméras, et lui filmait essentiellement avec sa caméra, mais de temps en temps, il allait voir l'autre, parce que, évidemment, comme les entretiens sont assez longs, du coup, des fois, il n'y avait plus de batterie, la carte était pleine, voilà, donc il fallait jongler de l'un à l'autre, etc. Donc c'était un peu folklore, voilà, mais on s'en est sorti, quoi.
Pas en mon nom de Daniel Kupfer-Chalin sort donc aujourd'hui dans quelques salles d'art et d'essai. Hein. Par exemple, à Paris, c'est au Saint-André-des-Arts, tous les jours à 13h. Mais on peut voir aussi ce documentaire à Saint-Malo, à Annecy, à Dijon, à Fontenay-sous-Bois. Et votre idée, Daniel Kupfer-Chalin, c'est d'accompagner ce film, c'est-à-dire qu'il y ait un débat après chaque projection.
Oui, oui, parce que j'ai l'impression que ce film suscite forcément des débats. J'en ai déjà fait quelques-uns dans des avant-premières avec des associations, et tout de suite il y a un débat tout de suite qui s'engage parce que il y a des représentations, il y a des idées qui ont été faites, il y a des gens qui sont pas d'accord, qui trouvent que je vais trop loin, d'autres qui, au contraire, je vais pas assez loin en fonction de leur engagement, etc. Et donc je trouve ça intéressant d'accompagner ce film pour que les gens comprennent un petit peu, bah, comme votre interview là, qu'on comprenne un petit peu mieux ma démarche et puis surtout toutes les questions qui peuvent en découler. Moi, par exemple, je trouve ça intéressant que des associations le reprennent, même si je suis pas là, mais qu'ils le reprennent avec un débat, parce que on a encore des représentations qui sont encore un peu figées. Et je trouve ça bien de sortir du cadre.
Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler, Daniel Kupfer-Chalin. Je rappelle le titre de votre documentaire, Pas en mon nom. On va écouter Lynn Monti. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse. Et ben voilà, vous allez découvrir une des grandes chanteuses de cette tradition judéo-arabe du Maghreb. Lynn Monti, Mon pays et ma guitare sur France Culture.
France Culture, le réveil culturel, Tofik Hakem. Oh,
s'égare et mon cœur sombre dans l'ennui. Le chemin qui nous sépare tout à coup se raccourcit quand le storbar de ma guitare vient me parler de l'Algérie.
Et parmi les autres sorties au cinéma aujourd'hui, deux films que Michel Simon, le grand patron de la revue Positif, nous recommande vivement. Il s'agit de City Hall de Frédéric Weismann et Adieu les cons d'Albert Dupontel. Deux genres très différents. Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
Ici, on commençait par City Hall de Frédéric Weismann, Michel Simon.
Oui, alors avant de commencer par City Hall, qui est la couverture de Positif, je voulais signaler que un très grand film sort également à Paris le 21, c'est Michel-Ange de Andrei Konchalovsky. Nous l'avions choisi comme couverture en juin, le film devait sortir à l'époque, à cause du coronavirus, il a été déporté, mais je voudrais évidemment le recommander. Tous les articles ont paru au mois de juin. Par contre, City Hall, c'est un film absolument passionnant, totalement d'actualité, car d'abord, on sait que Frédéric Weismann est un des plus grands documentaristes au monde. C'est un Américain de 90 ans et qui fait des films mosaïques consacrés à des institutions, à des bibliothèques, à des sanatoriums, à des stations de ski. Ce sont des films de 4h30, c'est la durée de celui-ci. Et cette fois-ci, il a choisi la mairie de Boston. Mais pour la première fois dans ces films, il y a un personnage central. D'habitude, c'est vraiment une myriade de personnages. Le personnage central, c'est le maire de Boston, Martin Walsh, qui est l'anti-Trump. Et on peut voir ce film vraiment comme une réponse à Trump, puisqu'il est l'opposé. Il s'occupe des déshérités, il fait baisser le chômage, il met toutes les communautés en harmonie les unes avec les autres. C'est un personnage charismatique, un peu à la Frank Capra, donc je recommande vivement ce film. Et puis, un autre film, alors très différent, qui est le film d'Albert Dupontel, qui lui est dans la fantaisie, dans l'imaginaire, et Dupontel, pour son, je crois que c'est son septième film, poursuit sa course en solitaire, sous l'égide de Jean-Pierre Jeunet, d'Alain Resnais. C'est un domaine très peu fréquenté par le cinéma français, qui est le domaine de la fantaisie.
Et ça raconte quoi, Adieu les cons?
Ben, c'est très difficile de le résumer. C'est une histoire d'amour, d'abord, dans un contexte de fantaisie, d'imaginaire. Voilà, je ne veux pas le déflorer vraiment. Mais je voudrais tout de même signaler un dossier de 25 pages consacré aux pandémies, aux contagions, au coronavirus, mais aussi, bien sûr, à la peste, au choléra, à tous ces films qui ont occupé l'histoire du cinéma. Et c'est un dossier qui, au fond, réfléchit sur ce que représentent ces pandémies, qui sont à la fois une réflexion aussi sur l'incompétence des dirigeants, les manipulations hasardeuses des savants et des militaires, l'inconscience des terroristes, etc.
Cinéma Virus, c'est le titre du dossier de Positif ce mois-ci. Michel Simon, merci beaucoup d'avoir participé au Réveil Culturel ce matin. Je rappelle que vos deux coups de cœur sont d'abord le film documentaire de Frédéric Weismann, City Hall, et le film français, le dernier film français d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Merci beaucoup Michel Simon.
Et Michel-Ange.
De Konchalovsky.
Voilà.
Merci beaucoup Michel Simon. Et puis je rappelle bien sûr le film de Daniel Kupferstein qui était notre invité ce matin, son documentaire Pas en mon nom, qui sort. Tous ces films bien sûr sortent aujourd'hui. Bonne matinée sur France Culture, on se retrouve demain.
Le Réveil Culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Le Réveil Culturel a été préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin, à la prise de son, Élise Le.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Entendez-vous l'écho s'infiltre dans les réseaux criminels pour suivre le fil de l'argent sale.
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
On se penchera sur l'économie du deal dans les cités et sur les multinationales du crime avant de se lancer à la poursuite des banksters, ces gangsters de la banque. Escrocs et truands, prenez garde, l'écho est à vos trousses.
Du sang à l'oseille, entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
France Culture, en partenariat avec le Festival d'Avignon, présente Une semaine d'art en Avignon. Découvrez 7 spectacles de théâtre, de danse, de marionnettes et de musique dans une dizaine de lieux d'Avignon et ses alentours. Assistez aux ateliers de la pensée, temps de débats et d'échanges avec le public, ainsi qu'au Festival des résidences d'artistes Viva Villa dans les espaces de la collection Lambert. Une semaine d'art en Avignon, du 23 au 31 octobre, un programme à retrouver dans Affaires culturelles, La Grande Table et Théâtre et Compagnie. Un partenariat France Culture avec les Inrecuptibles.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 7 personnes, dont 2 mineurs, sont présentées aujourd'hui à un juge antiterroriste, soupçonné d'avoir aidé de près ou de loin le tueur de Samuel Paty, cet enseignant assassiné près de son collège vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Hier, Emmanuel Macron s'est pour la première fois exprimé devant les médias à ce sujet. Il a annoncé la dissolution d'un collectif jugé islamiste. Ce sera acté en Conseil des ministres ce matin. Plus de 2 milliards d'euros de plus pour l'hôpital. Face à la deuxième vague de Covid-19, le ministre de la Santé promet une nouvelle enveloppe en cette fin d'année. Explication dans ce journal. Et puis nous irons au Nigeria où la police a tiré sur 1 millier de manifestants hier soir. Il y a des morts et des blessés. Ces manifestants protestaient contre les violences policières et le pouvoir en place au Nigeria. Emmanuel Macron promet donc des actions et une détermination sans faille contre l'islamisme radical. Avant l'hommage qui sera rendu ce soir à Paris à la Sorbonne à Samuel Paty, enseignant décapité vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine, le chef de l'État s'est rendu hier à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Il est allé assister à une réunion de la cellule départementale anti-islamiste. Et après cette réunion, Emmanuel Macron a vanté l'action des fonctionnaires de la préfecture. Il a aussi annoncé que la lutte contre les islamistes allait s'intensifier.
Depuis 3 ans, le ministre l'a rappelé, ce sont des centaines de structures qui ont été fermées, ce sont des écoles qui ne respectaient aucune loi de la République et qui n'étaient d'ailleurs pas des écoles, qui ont pu être fermées, encore certaines récemment. Ce sont des structures qui portaient une véritable idéologie de sortie de la République qui ont pu être ainsi dissoutes. Suite à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, nous allons renforcer encore ce qui était lancé. Nous savons ce qui est à faire. Nous le savons. Et donc ce sont des actes qui sont attendus par nos concitoyens. Ces actes s'intensifieront. Vous avez vu ces derniers jours plusieurs dizaines d'actions concrètes lancées contre des associations. Dès demain au Conseil des ministres, nous aurons à dissoudre le groupement de faits Cheikh Yassine, directement impliqué dans l'attentat. Des décisions de ce type à l'encontre d'associations, de groupements, d'individus, suivront dans les prochains jours et les prochaines semaines. Notre détermination est entière. Les actes seront là. La République en a besoin.
Des actes, c'est justement ce qu'attendait il y a 4 ans la population de Magnanville en région parisienne où la mort de Samuel Paty ravive un affreux souvenir. Le 13 juin 2016, un commandant de police, Jean-Baptiste Salvin, et sa compagne Jessica Schneider étaient assassinés dans leur pavillon par un terroriste. Cette attaque a traumatisé la ville résidentielle et son maire, Michel Lebouc. 4 ans après, il regrette le manque d'accompagnement et les décisions qui ratent leur cible aujourd'hui encore.
Ça me prend aux tripes, hein. J'ai pas dormi de la nuit, parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, ça me fait repenser au drame que j'ai vécu à Magnanville avec l'ensemble de la population, avec le décès de Jean-Baptiste et de Jessica, voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Je pense que c'est pas une cicatrice qui se refermera d'ici tôt, et je sais même pas si elle se refermera. Moi, à l'époque, il y a 4 ans de ça, l'État nous avait un petit peu abandonnés, hein, parce que les solutions, c'est pas de cibler les musulmans, c'est pas de cibler les religions, c'est pas de cibler, non, c'est de cibler ces assassins qui s'acharnent sur la République, hein. Je le disais dans un petit mot, c'est que les lumières de la République se sont encore éteintes une nouvelle fois. Et on essaye de les rallumer à chaque fois, mais on oublie qu'il y a des gens derrière qui souffrent. Ça a été deux policiers à Magnanville, c'était Charlie Hebdo avant, ça a été un curé à Saint-Étienne-de-Rouvray, puis aujourd'hui c'est un professeur, mais ça monte, ça monte, ça monte. À chaque fois que ça arrive, on nous dit, là vraiment, il faut qu'on se mette autour de la table et prendre des décisions concrètes. Il faut arrêter le blabla. Moi, sincèrement, en tant que maire, bon, j'ai pas de mosquée, j'ai même pas d'église, vous voyez, sur la commune, je suis une des rares communes en France où j'ai pas d'église non plus. Et je pense que les élus que nous sommes de proximité, on veut des actes concrets aujourd'hui.
Des propos recueillis pour France Culture par Cécilia Arbona. Côté enquête, 7 personnes doivent être présentées aujourd'hui à un juge antiterroriste. Parmi elles, le militant islamiste Abdelhakim Sefraoui, dont le collectif Cheikh Yassine doit être dissous ce matin au Conseil des ministres. Citons aussi le parent d'élève qui a lancé la mobilisation contre le professeur sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs ont retrouvé des messages sur la messagerie WhatsApp entre ce père de famille et le tueur quelques jours avant le meurtre. On ne connaît pas encore le contenu de ces messages. Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a fortement augmenté hier en France, avec 278 nouvelles admissions en 24 heures, soit plus de 2100 patients au total. Un nombre qui va continuer d'augmenter dans les deux prochaines semaines du fait du délai entre la contamination et les complications. C'est ce qu'a dit hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. La situation est particulièrement tendue en Île-de-France. Et pour faire face à cette deuxième vague de Covid-19, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce une rallonge budgétaire pour l'hôpital, plus 2,5 milliards d'euros, Solène Lehen.
Alors que les soignants sont épuisés, alors que la deuxième vague de l'épidémie surgit, on ne peut pas se permettre de compter les sous, estime l'entourage d'Olivier Véran. Tant pis pour le trou de la Sécu, le ministre de la Santé a donc décidé d'ajouter 2,4 milliards d'euros au budget de l'hôpital pour cette année, une rallonge qui s'ajoute à celle d'1,5 milliard au printemps dernier pour la première vague. Cet argent servira d'abord à compenser les pertes de l'hôpital. À force de repousser ou annuler des opérations rentables, les hôpitaux subissent un manque à gagner, d'autant qu'ils ont dû en plus dépenser et s'équiper davantage pour faire face au Covid. Dans cette enveloppe, 400 millions d'euros serviront aussi à payer les hausses de salaire négociées lors du Ségur de la Santé, les dernières hausses qui vont intervenir finalement dès le mois prochain. Quant aux personnels soignants qui accepteront de faire une croix sur une partie de leurs vacances de la Toussaint et de Noël, ils pourront toucher une indemnité allant jusqu'à 1100 euros pour les aides-soignants, 2000 euros pour les infirmiers. Enfin, leurs heures supplémentaires seront majorées de 50%.
Et je précise que cette nouvelle enveloppe entre dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale qui est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale. Le Covid-19 à Cuba maintenant, où les autorités considèrent que l'épidémie est maîtrisée. L'île des Caraïbes rouvre donc ses frontières aujourd'hui après plus de 7 mois de fermeture au tourisme qui était le deuxième secteur économique du pays. Le retour des touristes pourtant devrait se faire attendre encore un peu, Domitille Piron.
Cuba parie sur un tourisme de plage. Le site balnéaire de Varadero est désormais accessible aux touristes étrangers comme les Cayos, les petites îles bordant Cuba, avec un atterrissage directement sur place, un test PCR à l'arrivée et un séjour dans les hôtels d'État uniquement. Pour le secteur privé cubain, cette réouverture ne change donc rien, tout comme pour la Havane qui devra encore patienter. C'est à pleurer parce que nous vivons du tourisme, explique Miguel dans la rue Obispo, l'une des plus animées de la capitale en temps normal. Mais la vieille Havane a perdu son habituelle musique et les vieilles voitures américaines sont toutes au garage, comme ici, à Nostalgic Car. Nidialis Acosta gère avec son mari cette petite entreprise touristique. Ils vivent depuis 7 mois de leurs économies.
Pour l'instant, il n'y a pas de tourisme en ville, qui est celui avec lequel on travaille, mais nous espérons que d'ici le début de l'année prochaine, tout revienne à la normale. On est certain que ce ne sera pas comme avant le Covid. Il faudra recommencer de zéro comme au début, mais on n'a pas le choix et c'est pour le bien et la santé de tous.
Même si les économies des travailleurs du secteur privé se réduisent comme peau de chagrin, ici tout le monde reconnaît la responsabilité et l'engagement de l'État et de chacun dans la lutte contre le coronavirus. Alors, chez Dador, un petit atelier de couture et magasin de vêtements haut de gamme, principalement pour touristes, les couturières et designers comme Lorraine Fajardo Cardenas se sont lancés dans une gamme de masques de protection.
Pour nous, le fait est que nous ne sommes pas un magasin de première nécessité, qui sont les seuls qui fonctionnent actuellement. Mais nous avons créé un produit de première nécessité.
Ici, le masque est obligatoire partout et tout le temps depuis 7 mois. même pour les touristes qui viendraient s'aventurer sur les plages cubaines.
Domitille Piron à La Havane pour France Culture. Partons maintenant au Nigeria, où des manifestants protestent depuis une dizaine de jours contre les violences policières et la mauvaise gestion du gouvernement. Un mouvement inédit dans le pays, le plus peuplé d'Afrique, avec ses 200 millions d'habitants. Les mobilisations de rue y sont rarissimes, et celle d'hier a finalement été basculée dans le chaos. Notamment à Lagos, la plus grande ville du pays, les manifestants ont été brutalement dispersés par les forces de l'ordre hier soir. Il y aurait, selon Amnesty International, plusieurs morts et de nombreux blessés, Lisa Fabian.
Un drapeau nigérian taché de sang, c'est l'image qui restera à l'issue de cette journée de mardi marquée par la reprise en main des autorités nigérianes. Ces derniers jours, des bandes de casseurs avaient fait leur apparition en marge des rassemblements dans plusieurs villes du pays. Des manifestants ont été grièvement blessés par ces jeunes qualifiés de voyous qui ont aussi incendié plusieurs commissariats. Face à ces violences que les manifestants disent orchestrées par le pouvoir en place, les autorités nigérianes ont pris ce mardi une série de mesures pour ramener le calme dans le pays. Un couvre-feu de 24 heures a notamment été décrété dans la mégalopole de Lagos, qui compte 20 millions d'habitants. Le chef de la police nigériane a annoncé dans la foulée le déploiement de la police anti-émeute sur tout le territoire. Malgré ces annonces, les jeunes manifestants ont poursuivi leur sit-in sur le principal péage de la capitale économique qu'ils occupent depuis plus d'une semaine. Mais à la tombée de la nuit, ils ont été brutalement dispersés par les tirs nourris des forces de sécurité nigérianes qui sont intervenues 2 heures avant le début officiel du couvre-feu.
Lisa Fabien. Pour France Culture, le temps de ce mercredi sera partiellement couvert avec un peu moins de vent. Ce matin, il fait 9 degrés à Strasbourg, 16 à Paris, 18 à Marseille. Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées avec vous Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Face aux terreurs et au terrorisme islamiste, le gouvernement a choisi, nous l'avons entendu dans le journal, l'épreuve de force, garde à vue en série, visite domiciliaire et menace de dissolution d'associations suspectées de séparatisme, Jacques.
Oui, la question c'est comment mettre un terme à la longue série d'attentats depuis des années. La question donc est ardue, la presse en reflète bien la complexité. Débattre n'est pas devenu synonyme de combat, mais d'abattre. Comment résister, demande Eric Fotorino dans l'édito de l'hebdomadaire Le 1. D'autant plus que l'assassinat d'un enseignant après sa classe a une résonance particulière, souligne le professeur de médecine Sadek Beloussif, membre du Conseil français du culte musulman. L'enseignant, je cite, dans la culture musulmane vient juste après les prophètes comme prééminence et responsabilité. En l'absence de clergé dans l'islam sunnite, l'imam est simplement primus inter pares, le premier entre ses pairs, dirigeant la prière tout en restant à égalité des autres, le fidèle. L'enseignant, lui, c'est le passeur, le transmetteur, le sage. Pour Jérôme Fourquet, l'auteur de l'Archipel français, il faut envisager une stratégie de harcèlement administratif et fiscal sans précédent contre les associations et lieux de prière radicaux. Le politologue de l'IFOP constate une montée des atteintes à la laïcité dans l'école révélée par une enquête récente. 37% des enseignants reconnaissaient avoir pratiqué une forme d'autocensure lors de certains enseignements pour éviter des incidents. Et ce taux monte à 53% parmi les enseignants en REP, un réseau d'éducation prioritaire. Un phénomène qui, sans surprise, touche surtout les profs d'histoire géo. La population musulmane est estimée à près de 8% de la population française. Un quart d'entre elles campent sur des positions extrêmement problématiques. Comment faire en sorte que les trois quarts qui sont des gens paisibles et assimilés se démarquent le plus possible de ce bloc de 25% qui monte à 40% chez les jeunes, avec cette difficulté supplémentaire que sans clergé il n'y a pas d'intelligentsia reconnue, et faute de figure de référence, ce sont les plus radicaux qui mènent la danse, souligne Jérôme Fourquet. Pour Gilles Kepel, dans Le Monde, le dispositif législatif focalisé exclusivement depuis 2015 sur les attentats terroristes et la remontée de leur filière n'est plus opérant face à un djihadisme d'atmosphère qui illustre les derniers assassinats. C'est là, selon lui, le défi de la nouvelle loi qui doit s'attacher aux causes et non plus aux seules conséquences, ce qui suppose une bonne connaissance des ressorts et des détours de l'islamisme politique, toujours à l'affût des amalgames pour retourner le procès qui lui est fait en se présentant comme victime. Où en sont les dispositifs de la prévention de la radicalisation dans les prisons? Dedans dehors, la revue de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, publie un dossier complet sur le sujet. Bien souvent, je cite, la sécurité l'emporte sur l'accompagnement et l'objectif de neutralisation sur celui de réhabilitation. La politique pénale s'est considérablement durcie depuis janvier 2015. Ceux qui sont partis en Irak ou en Syrie ne risquent plus 10 mais 20 ans de prison, indépendamment de ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire sur place. Parmi les 1028 personnes prévenues ou condamnées pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, les profils sont très variés car l'inculpation permet de sanctionner avant même la réalisation d'actes terroristes. C'est autour de cette logique prédictive que s'est construite la politique de gestion de la radicalisation de l'administration pénitentiaire, avec au cœur de son dispositif l'évaluation de la dangerosité, une évaluation qui décide du devenir pénal et tient lieu d'aide à la décision judiciaire dans des conditions souvent opaques à laquelle détenus et avocats n'ont pas toujours accès. La dangerosité compte plus que la culpabilité légalement établie et pour ceux qui sont à l'isolement total, l'accès aux activités est très limité. Les aménagements de peine dépendent également de cette évaluation qui peut prolonger indéfiniment la mise au secret car sous ce régime, le non-respect des règles en détention est lourdement sanctionné même pour des broutilles comme la possession d'un MP3 qui vaudra 3 mois ferme à un détenu à une semaine de sa libération. Dans un rapport de la Cour des comptes consacré aux moyens de lutte contre le terrorisme, celle-ci relève que ces mesures de sûreté ont remplacé les mesures d'aménagement des peines au détriment de l'accompagnement. Dans ces conditions, souligne Laure Anelli, qui a coordonné le dossier, il n'est pas étonnant que des chercheurs ayant observé des quartiers d'évaluation aient constaté le renforcement de la radicalisation de certains détenus par une consolidation institutionnelle du stigmate. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous aujourd'hui, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à toutes et à tous.
Au programme, le retour de la gauche à la tête de l'État plurinational de Bolivie.
Oui, l'État plurinational de Bolivie, c'est le nom officiel de ce pays qui était dirigé par l'ancien leader syndicaliste Evo Morales de janvier 2006 à octobre 2019. Il y a un peu moins d'un an, il était contraint de quitter le pouvoir après une réélection très contestée, après avoir surtout été lâché par la police et l'armée et devant l'ampleur de la mobilisation de ses opposants. Un an après, donc, c'est Luis Arce, son ancien ministre de l'économie, qui a remporté l'élection présidentielle en Bolivie ce dimanche et dès le premier tour avec plus de 52% des suffrages. Une parenthèse chaotique semble se refermer dans ce pays. Parenthèse durant laquelle la droite dure s'était appropriée la plupart des leviers du pouvoir. À en croire les résultats électoraux, l'expérience n'a pas suscité l'adhésion de la population, avec une gestion clivante des affaires publiques et surtout une gestion calamiteuse de la crise sanitaire. Le pays peut-il se réunifier ? Utilisons ce mot de réunification avec toutes les précautions d'usage, car la Bolivie, politiquement, culturellement, est une nation divisée et complexe. Et c'est justement pour tenter d'y voir plus clair que nous recevons une spécialiste de ce pays. Bonjour, Christine Delfour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeure de civilisation espagnole et latino-américaine contemporaine à l'université de Paris-Est Gustave Eiffel. Et je rappelle pour nos auditeurs l'un de vos ouvrages, « L'invention nationaliste en Bolivie, une culture politique complexe », publié chez l'Harmattan en 2005 et réédité l'an dernier. Commençons, si vous le voulez bien, avec les leçons de ce scrutin. Christine Delfour, Luis Arce sera donc le prochain président de la Bolivie. Cet économiste de gauche est élu dès le premier tour avec donc plus de 52% des voix au moins. D'après plusieurs sondages sortis des urnes, on a maintenant les résultats définitifs. On a plus de 52%, ça y est.
Oui, on est maintenant à 84,65% des bulletins dépouillés. Je vous donne les chiffres officiels actuels, avec pour le MAS 53,7%. Donc ça va, je pense, évaluer encore un peu. Et pour Carlos Mesa,
son adversaire, donc.
Son adversaire, 29,6%. Et pour le candidat de l'extrême droite, 14,6%.
Voilà, donc les premières tendances se confirment. C'est une victoire qui a été reconnue d'ailleurs par son adversaire Carlos Mesa et aussi par la présidente par intérim, Jeanine Agnès, qui n'était pas candidate. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie en Bolivie, cette reconnaissance des adversaires du MAS.
Oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement, mais c'est, je pense, ce qu'ils devaient faire. Maintenant, ils sont dans cette volonté de qu'il y ait, non seulement qu'il y ait un passage de pouvoir dans la tranquillité, l'apaisement, après, effectivement, comme vous l'avez évoqué, une année très complexe.
Alors, Luis Fernando Camacho, lui, n'a pas reconnu la victoire du MAS. Il a fait 14%. C'est donc le chef du comité civique pro-Santa Cruz. C'est un homme d'extrême droite, je crois qu'on peut le dire, qui symbolise aussi une extrême droite religieuse et évangélique. Des problèmes peuvent apparaître avec une contestation du scrutin qui serait possible encore de la part de Camacho.
Oui, c'est toujours possible. D'ailleurs, il commence à faire quelques déclarations, disant qu'il a mis en place un comptage spécifique. Mais disons, c'est anecdotique, si j'ose dire, aujourd'hui, vu les résultats des élections qui ne vont que confirmer la victoire du MAS, avec quand même un décalage par rapport à l'année dernière, de 20 points par rapport à l'année dernière, alors que le décalage, c'était de 10 points. À la faveur du MAS.
Christine Delfour, c'est la victoire de Luis Arce donc depuis quelques jours, mais c'est d'abord la victoire de ce mouvement politique, le MAS, le mouvement vers le socialisme. C'est un mouvement qu'avait lancé et présidé Evo Morales, et c'est un mouvement aujourd'hui qui gagne l'élection sans son leader charismatique. Est-ce que selon vous, c'est un signe de maturité politique?
Bien évidemment, c'est un signe de maturité politique et je dirais même que ce n'est pas la victoire du MAS, c'est quand même la victoire du peuple bolivien qui a démontré qu'il était un peuple qui avait une croyance très forte en la démocratie et qui, de ce côté-là, est aujourd'hui, et disons, le résultat est le reflet de cette culture démocratique du peuple bolivien.
Qu'est-ce qui différencie fondamentalement Luis Arce de Evo Morales? Évidemment, les deux hommes ont un parcours extrêmement différent. Luis Arce est issu de la classe moyenne, il a étudié au Royaume-Uni. Evo Morales, on l'a dit, est un ancien leader syndical. Est-ce que c'est uniquement une question de style, de tempérament, de style de gouvernance qui peut apparaître entre les deux hommes?
Oui, alors on est face à un Evo Morales qui était un leader charismatique, comme vous l'avez dit, et de l'autre côté, un nouveau président qui n'est pas charismatique, bien évidemment, mais qui est un technicien, je pense aujourd'hui, va donner à son gouvernement une note beaucoup plus de technicien et transformer le MAS peut-être également en un vrai parti politique, ce qu'il n'était pas jusqu'à aujourd'hui.
Alors on dit que c'est un mouvement politique pour l'instant, c'est pas un parti institutionnalisé comme sont les autres.
Son nom, et je pense qu'il ne changera jamais de nom, hein, puisque c'est le mouvement vers le socialisme, comme il y avait dans les années 50 le mouvement nationaliste révolutionnaire. Mais aujourd'hui c'est une agrégation encore de mouvements sociaux. Vous trouvez donc des syndicalistes cocaleros, où vous trouvez des organisations indiennes, mais je pense qu'il est en train de se transformer, effectivement, il se transformera dans les prochains mois et les prochaines années en un vrai parti politique, sans aucun doute. On n'est plus là dans un élan, si vous voulez, qui a fait qu'un leader charismatique entraîne toute la population avec lui.
Est-ce que la crise politique que vit la Bolivie depuis un an, Christine Delfour, peut laisser des traces dans la culture politique du pays? On parle beaucoup de représailles qui seraient possibles, que craindraient les adversaires défaits de Luis Arce. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible selon vous et qu'il faut redouter?
Bien, écoutez, moi je considère que il y a eu des représailles avec les personnes du MAS après la période agitée donc du mois d'octobre, puisqu'il y a énormément de fonctionnaires qui étaient proches du MAS qui ont été limogés carrément. Ce n'est pas, en tout cas, ça, je pense pas que ça soit la volonté du pouvoir qui va se mettre en place de le faire. On est dans un pays où, jusqu'à présent, il y a eu effectivement, avec des changements et des ruptures de gouvernement, des représailles, c'est vrai. Souhaitons qu'il y en ait moins. En tout cas, je ne pense pas que ça soit la volonté qu'il y en ait beaucoup. Mais néanmoins, les personnes, peut-être, qui ont eu, alors là, au plan politique, hein, des attitudes un peu complexes et antidémocratiques, et il est fort possible qu'il y ait des choses, mais ça, c'est trop tôt pour le dire.
Alors, Christine Delfour, j'évoquais en introduction de cette émission le modèle politique bolivien, un modèle assez unique, hein, puisque le mot république n'apparaît pas dans le nom officiel du régime. La Bolivie se dénomme officiellement l'État plurinational de Bolivie. J'aimerais qu'on s'intéresse un tout petit peu avec vous à ce que ça veut dire que cet État plurinational, Dans une tribune que vous avez publiée dans Libération en novembre dernier, en 2019, vous citiez Evo Morales dans son discours d'investiture pour un second mandat comme président de la République. Morales qui qualifiait sa victoire comme étant celle de la fin d'une ère qui débuta au moment de la fondation de la République en 1825. Morales disait « Un État colonial s'en va, un État plurinational arrive ». Il y a donc une rupture avec cette arrivée d'un État plurinational reconnu comme tel dans la Constitution de 2009. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que cette Constitution qui reconnaît un État plurinational comme forme officielle du régime bolivien?
Oui, ça veut dire que c'est une rupture totale avec 1826, avec la fondation de la République. Et symboliquement, effectivement, le mot « République » a été banni de la Constitution. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement la reconnaissance de toutes les nations qu'il y a en Bolivie. Et,
on peut les citer, hein, les Quechua, les Aymara. Et,
oui, il y en a 32. Voilà. Alors, bon, mais les Quechua, les Aymara, en particulier, qui sont les populations les plus importantes dans la partie haute des hauts plateaux andins, ce que l'on appelle les Coya. D'accord? Effectivement, mais pas uniquement. C'est toutes les nations, même il y a énormément de, il y a plusieurs nations dans les régions des basses terres, c'est-à-dire dans la plaine du bassin amazonien. C'est la reconnaissance, donc, de toutes ces nations qui étaient bien présentes avant l'arrivée des Espagnols et dans la période précolombine. Et c'est aussi, et c'est ce qui est très important, la reconnaissance de leurs droits et de leur mode de fonctionnement. Et ça, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant, parce qu'on est c'est mis en place, et ça, c'est une rupture totale, et que je sache, il n'y a pas d'autres systèmes comme cela encore dans le monde, c'est la mise en place d'un État interculturel.
Alors, on a parlé de la responsabilité d'Evo Morales dans la crise de l'an dernier. Est-ce qu'on peut pas aussi dire un mot sur peut-être une façon qu'il a eu de ne pas associer les populations qui historiquement avaient eu le dessus, évidemment, dans ce pays, mais les populations blanches autour de Santa Cruz? Est-ce que cette population, allez, faisons-nous l'avocat du diable avec cette formule, a pu peut-être se sentir un peu délaissée aussi pendant la période Morales? Est-ce que ça a favorisé aussi les clivages dans le pays qu'on a connus l'an dernier?
Je pense pas du tout que les populations, disons, qui s'auto-identifient comme blanche du côté de Santa Cruz aient été délaissées. Je pense parler avec les grands entrepreneurs boliviens de Santa Cruz, ils n'ont jamais gagné autant d'argent, et il y a eu de bonnes relations entre Evo Morales et ses grands entrepreneurs, et qui sait, je l'ignore, mais peut-être certains ont même voté pour le retour à une stabilité politique et surtout économique, et donc peut-être, hein, je l'ignore, mais pour Morales, qui sait.
Alors, avec cette stabilité économique que vous évoquez d'un mot, Christine Delfour, se pose la question du modèle économique de développement de la Bolivie. On sait que le pays a eu des chiffres extraordinaires de développement pendant les années Morales. Aujourd'hui, les exportations sont à la peine, les prix des matières premières ont chuté. Comment Luis Arce peut-il résoudre la quadrature du cercle dans ces conditions?
Effectivement, on est dans une conjoncture qui est à l'opposé de celle d'Evo Morales quand elle est arrivée au pouvoir. Et on parle même d'une décroissance de moins 11%. Mais je pense que ça va être la tâche va être très difficile pour Luis Arce, mais comme elle est difficile pour tous les pays, même chez nous en Europe. Donc ça va être extrêmement difficile, oui, mais avec une volonté de bien faire les choses.
Eh bien, on suivra en tout cas ce dossier sur l'antenne de France Culture. Merci beaucoup, Christine Delfour, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Paris-Est, Gustave Eiffel, et vous avez publié « L'invention nationaliste en Bolivie, une culture politique complexe » chez L'Harmattan.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
On disait de Matisse que c'était un bourgeois et que sa peinture jugée décorative n'était pas en mesure de nous remuer les tripes.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Eh bien, 150 ans après sa naissance et alors qu'une exposition le célèbre au Centre Pompidou à Paris, on se rend compte qu'il était bien au contraire un peintre de l'avant-garde qui cherchait, et comment s'en plaindre, à alléger par l'harmonie de sa vision la vie de ses contemporains.
La compagnie des œuvres, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur l'application Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Eh bien, bonjour.
C'est l'heure de retrouver votre billet d'humeur. Aujourd'hui, que faire de la haine en ligne?
Eh bien, soulignez Antoine que c'est quasiment une tautologie. La haine en ligne, comme on dit, de l'eau mouillée. Cet énoncé est probablement excessif, hein, comme s'il s'était produit uniquement de la haine en ligne. C'est vrai que la haine existait avant Twitter. Les lettres de dénonciation existaient avant l'apparition des réseaux sociaux. Et cependant, le genre épistolaire ne se limite pas à cela. Aux côtés des lettres à la commandante Tour, il existe aussi les lettres à la marquise de Merteuil. Dès lors, il sera toujours loisible d'évoquer un avant. L'humanité a possédé sa part maléfique avant les réseaux sociaux. De la même façon, on pourra aussi évoquer évidemment les différents bienfaits et avantages des dits réseaux sociaux. Mais il n'est pas inutile de revenir parfois aux fondamentaux, autrement dit à Marshall McLuhan, l'un des premiers à avoir réfléchi à la communication moderne. L'une des idées de McLuhan consiste à dire que le médium et le message, autrement dit que chaque moyen de communication sécrète un type particulier d'information, en particulier du fait du lien qui se noue entre l'émetteur et le récepteur. Et comme l'écrivait en substance McLuhan, ces technologies ont changé le rapport à nos cinq sens. Je le cite, hier c'était la vue par l'alphabet et l'imprimerie, depuis plusieurs décennies c'est l'ouïe, et désormais c'est notre système nerveux central, Video Boy, a été élevé par la télévision, écrivait-il dans les années 70. Alors avec les réseaux sociaux, tous les ingrédients sont réunis pour que ce système nerveux central reconstitue la horde primitive. Car la haine est aussi contagieuse que le Covid et son R0 en ligne, et pratiquement sans limite, un tweet, une vidéo peut conduire à décapiter un homme, nous le savons hélas maintenant de science certaine. Il sera très difficile d'empêcher que cet espace de discussion ne serve pas aussi au lynchage, parce qu'il a désormais sa grammaire, sa fonction, que les réseaux sociaux sont des lieux particulièrement propices pour libérer certaines pulsions. Comme McLuhan le disait, ce n'est pas parce que nous serons tous interconnectés dans une conscience globale grâce à des ordinateurs portables gros comme des prothèses audio que notre vie sera meilleure. Ça, c'était toujours dans les années 70, cette prophétie. Après le quart d'heure de célébrité, chacun connaîtra son quart d'heure ou plus d'indignité.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et après le drame de Conflans, alors qu'aujourd'hui il y aura un hommage national à Samuel Paty, nous allons revenir sur la question du terrorisme et plus précisément sur le passage à l'acte. Nous serons en compagnie de Gilles Kepel, directeur de la chaire Moyen-Orient, et de l'historienne Annette Becker, 7h sur France Culture.